Ficitus, ficitus, zombre capon.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat. Un peu de grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé de marquer le sport en guerre. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info en ce vendredi 9 septembre. Non, 10 septembre, pardon. Oups. Mais de quoi va-t-on parler ?
Et bien, de quoi va-t-on parler ? Et bien, au début, on va vous parler dans le rythme local. On va vous donner les nouvelles de la Fafri lyonnaise parce que ça part en cacahuète un peu partout.
Et puis évidemment c'est la rentrée de la rubrique nucléaire et on commencera par un retour de l'été, notamment un retour sur les burlesques qui ont été annulés.
Ensuite on vous parlera de la demande d'utilité publique du projet CIGEO qui va commencer la semaine prochaine.
Et puis comme vous le savez le nucléaire est sûr et du coup on vous parlera de la centrale de Belleville qui pète plus vite que son ombre.
Et non, le Canu Info du vendredi, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. On vous parlera ensuite de la relax des 7 de Briançon.
Et ensuite, ça sera une rubrique internationale féministe. On vous parlera de l'actualisation, de la légalisation, contraception et avortement dans le monde.
Et puis, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des luttes. Alors, on vous fera évidemment le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur le Canu Info.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable
vis-à-vis des personnes pas minimale à Lyon.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, il s'agit de la fermeture de ces en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région?
Vauquier.
L'assistana est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française. La société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme ?
Quelle ferme ?
À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ?
Alors, Laurent Wauquiez, qui voulait que la région retrouve ses repères, a manifestement, lui, complètement perdu les siens. Puisque vous en avez peut-être entendu parler, Laurent Wauquiez est tombé sur la vidéo de promotion du prochain festival Antifa Fest, donc un festival qui a lieu à Lyon depuis 7 ans, tout à peu près à l'automne. Et dans celle-ci, on voit, dans cette vidéo, on voit deux rappeurs scander lors d'une édition précédente du festival « Et tous les flics, c'est des bâtards, et tous les flics, c'est des bâtards, ad lib ». Pour Wauquiez, qui considère les flics comme sa daronne, cette phrase sonne toute banale et inacceptable. Il a donc menacé le CCO de voir disparaître la subvention de 45 000 euros annuels que lui verse la région, ainsi que de supprimer les subventions du festival Antifa Fest qui n'en touche pas. Évidemment, le syndicat de flics Alliance s'est félicité de cette subvention. Quant au CCO, il s'est fondu d'un communiqué assez pathétique où il se désolidarise des artistes. En même temps, avait-il vraiment le choix ? En attendant, le festival Lyon Antifa Fest a produit un communiqué officiel dont voici une lecture partielle. Au cœur de la polémique de cette dernière 48 heures, notre vidéo promotionnelle a été retirée des réseaux sociaux. Le CCO, salle qui accueille notre festival depuis ses débuts, s'est vu menacé, dont acte, par le président de région Laurent Wauquiez de la suppression des subventions qui lui étaient allouées. Nous ne pouvons que condamner cette décision arbitraire à l'encontre du CCO. Si les propos tenus dans cette vidéo agitent et offensent la sphère politique, le CCO ne saurait en aucune façon en être tenu responsable. Nous ne pouvons au contraire que nous interroger quant au dessein politique qui anime cette décision, à l'approche des futures élections. Lorsqu'il nous est reproché de troubler l'ordre public, nous rappelons qu'aucun accident n'est à déplorer sur notre festival au cours des 7 éditions, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle. En revanche, cette même salle a subi en 2019 des menaces et une attaque avec tentative d'incendie afin de la dissuader de nous accueillir. Nos politiques sont alors restées muets quant au caractère gravissime des actes et de leurs acteurs et actrices dans un contexte pourtant toujours plus sécuritaire. L'entièreté de notre organisation repose sur une parfaite légalité. Ici, notamment la SACEM, les agents de sécurité, elles respectent toutes les autorisations. Et nous nous interrogeons quant à la fermeté annoncée à notre encontre et notre appel supposé à la haine lorsqu'en parallèle, les locaux d'organisation dissous par le gouvernement, on parle ici de génération identitaire, ont encore pignon sur rue au sein de notre ville de Lyon. Nous tenons à rappeler que nous sommes un festival autogéré et non subventionné, contrairement aux propos mensongers actuellement diffusés. Et nous prononçons contre toutes les discriminations de classe, de genre, de race, toutes les violences homophobes, transphobes, sexistes, fascistes et capitalistes, et contre tous les systèmes d'oppression et de répression. L'extrait utilisé afin de nous nuire est un habile procédé d'opposition politique, car aucune violence n'y était réclamée. Nous demandons que cesse l'acharnement politico-médiatique à notre encontre, ainsi que les pressions subies par la structure culturelle et nécessaire qu'elle cesse. Nous constatons qu'il reste facile de s'attaquer à des minorités ou à de petites associations quand d'autres condamnés pour incitation à la haine continuent de servir sur des plateaux télé ou des magazines également subventionnés. On en passe une pour Éric Zemmour. Il conclut en écrivant « Siamo tutix antifascistix ». Alors c'est pas là la seule panique morale de l'extrême droite, c'est un peu le bazar actuellement et notamment dans les choses malheureusement qui arrivent et qui ressemblent beaucoup à l'idée d'extrême droite. Il y a eu une agression antisémite dans le quartier de la Guillotière mercredi soir où un habitant du 7e qui portait une kippa aurait été traité de sale juif par 5 individus place Gabriel Péri selon le Progrès et cherchant des explications à cette insulte, la victime a été frappée à coups de pied et à coups de poing avec voilà. Des CRS qui étaient juste à côté ont assisté à la scène, ils sont intervenus et ont interpellé l'un des agresseurs alors que les autres ont pris la suite. L'antisémitisme reste un problème majeur, comme on peut se rendre compte, et c'est souvent actuellement. Par ailleurs, le communiqué de l'Antifa Fest Festival parlait de génération identitaire qui théoriquement a été dissous et qui vient de fusionner sa salle de boxe et son bar pour annoncer une réouverture. Ce groupe UCH d'extrême droite, donc Génération Identitaire, a été dissous depuis le mois de février. Son bar et sa salle de sport étaient toujours occupés officieusement dans le Vieux-Lyon. Et désormais, les militants du groupe ne se cachent même plus et annoncent rouvrir officiellement leurs locaux le 11 septembre avec, je cite, une soirée serbe. Dont on se doute un petit peu des relents. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un grand amour pour la Serbie ou si c'est en référence notamment au génocide des Bosniaques dans les années 90. Mais en tout cas, tout ça est consacré à la fois une soirée serbe et un visionnage d'un match de boxe. L'argument pour éviter une reconstitution de la Ligue dissoute est peut-être là. Fusionner leur ancienne salle de boxe, la Gaugée et leur bar La Traboule en un lieu unique qui s'appelle Les Remparts, c'est leur nouveau nom, et prétexter de ne plus y faire de politique. Leur communiqué précise, désormais, les deux locaux qui forment un complexe enraciné, ça c'est leur terme de faf, sur plus de 180 mètres carrés, se consacreront à un rôle communautaire, culturel et sportif plutôt que politique, a annoncé donc les Remparts. Évidemment, cet argument est ridicule puisque la suite d'un communiqué est totalement politique et on sait très bien que la salle servira bien sûr toujours de lieu d'organisation et de préparation à la violence politique qu'exercent régulièrement ces fascistes dans nos rues. Pas que dans nos rues d'ailleurs, puisque les fascistes s'exercent un petit peu partout, où on réentend parler de génération identitaire. Raphaël Arnaud, qui est le leader des antifascistes de la Jeune Garde Lyon, a été agressé par des membres du groupuscule d'extrême droite Zouave Paris hier matin, jeudi matin. Un guet-apens est étendu par ces néo-nazis qui sont proches de générations identitaires et responsables de nombreuses violences à Paris. La plupart ont agi à visage découvert en pleine gare de Lyon, au milieu de la foule et à coups de canne sur Raphaël Arnaud. Il était aux alentours de 11h15 lorsqu'il est descendu de son train depuis Lyon et sur les réseaux sociaux, il avait appelé depuis plusieurs jours à se rassembler devant le tribunal de Paris où se tenait hier le procès de Thomas Porte. Donc, Thomas Porte, c'est un cadre de Génération, le parti fondé par Benoît Hamon, qui est actuellement donc, le porte-parole de l'écolo Sandrine Rousseau et qui est poursuivi par Génération Identitaire, qu'il avait qualifié de mouvement néo-nazi en 2018. Donc il se rendait là. Les FAF lui sont tombés dessus et lui ont tapé assez violemment sur la tronche. Et donc, évidemment, nous lui exprimons notre soutien.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc, eh bien, on va commencer cette rubrique nucléaire par un petit retour sur un des événements qui s'est passé cet été. Alors, parce qu'il y en a eu deux, enfin, ils sont de gros événements. Donc, il y avait les burlesques qui étaient censés être du 6 au 8 août. Et puis, il y avait les rayonnantes qui étaient plutôt fin août. Alors, moi, je ne suis pas allé aux rayonnantes, donc je ne vais pas vous en parler. Mais par contre, je suis allé aux burlesques, qui n'ont pas eu lieu. Mais il y a quand même eu des choses. Donc voilà, donc l'événement a été annulé pour plein de raisons. Parmi des raisons, donc il y avait surtout pas mal le casse-tête sanitaire qui déboulait là début août et en fait les gens ne savaient pas trop comment gérer cette question-là de manière sereine vis-à-vis des burlesques. Et donc du coup ils ont préféré dire on va faire autre chose. Et donc ça a été plutôt que d'avoir un événement sur trois jours qui en fait pour vous expliquer un peu ce que c'est les burlesques, c'est en gros c'est plutôt festif ça se passe à côté de Bure, pas loin de Bure.
Est-ce que c'est à côté de l'Esc?
De l'Esc? De l'Est? Ah oui, burlesque, pardon.
Blague de daron, c'est la rentrée, pardonnez-moi.
Voilà. Alors, c'était censé se passer à Ménil-sur-Sault. Du coup, voilà. Donc, tu m'as coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, l'événement a été annulé pour des raisons entre autres, essentiellement sanitaires. Il y a aussi des pressions auprès des personnes qui prêtaient leur chant. Donc, pression plutôt policière, hein, évidemment. Donc voilà, ça a pas facilité l'organisation de cet événement, mais du coup voilà, ils ont préféré faire des déambulations dans des villages, donc autour de Bure, et donc par exemple notamment aussi à Ménil-sur-Sault. Donc ces déambulations avaient pour but un peu d'aller discuter avec les gens, discuter du coup du projet CIGEO et puis également de la demande d'utilité publique dont je vous parlerai tout de suite après. Et donc voilà, donc c'était plutôt festif, bon enfant. Bah, alors évidemment, il n'y avait pas les 10 000 personnes attendues par le festival habituellement, mais c'était quand même très chouette. Ah oui, et c'est ça que j'étais en train d'expliquer, c'est ce qu'étaient les burlesques en temps normal. Et ben, c'est un festival qui se déroule sur 3 jours et qui a pour but un peu de parler de la question du nucléaire, mais voilà, c'est un peu familial, on va dire, si je puis dire ainsi, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était plutôt chouette, ces déambulations. Petite anecdote quand même, dans le village de Ménil-sur-Sault, justement, où devait se dérouler le festival, eh ben, on peut dire que le maire était plutôt extrêmement hostile et plutôt d'allure faf, comme on dit. Donc, quand le bonhomme a déboulé de chez lui, quand les gens passaient devant chez lui, il a direct appelé la gendarmerie en disant qu'il y avait des explosions partout. Enfin, bref, c'était un festival. Et on aura pu noter que dans son accoutrement, il était affublé d'un t-shirt qui était divisé en deux parties. Une partie qui disait où il y avait des petits oiseaux qui disaient le problème, et une autre partie avec un mec qui tirait sur les oiseaux qui disait la solution. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit.
La promotion de la biodiversité.
Un peu pour vous donner l'état d'esprit de la situation là-bas. Voilà, voilà. Du coup, on va rester sur Bure et on va vous parler donc de la demande d'utilité publique. Et donc je vais vous lire un communiqué qui est le communiqué de la coordination Stop CIGEO. Donc CIGEO, c'est le projet d'enfouissement de déchets nucléaires qu'il y a à Bure. Et donc voilà, je vais vous lire leur communiqué. Donc une mobilisation de 3 jours pour le lancement de l'enquête publique de CIGEO Bure. L'enquête publique pour la demande d'utilité publique du projet CIGEO aura lieu du 15 septembre au 23 octobre. C'est à l'approche de l'automne que l'enquête publique de la DUP de CIGEO va commencer, alors que de colossales incertitudes demeurent sur des sujets absolument essentiels. Maîtrise des risques et sécurité de CIGEO, avenir du territoire, risque de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, coût du projet, etc. etc. L'ANDRA a réagi aux recommandations de l'autorité environnementale qui a émis un avis très critique début 2021 sur cette demande de DUP. Mais nous savons d'ores et déjà que ces réponses sont insuffisantes. Elles renvoient à des étapes ultérieures du projet, à savoir à l'instruction de l'autorisation de la création de CIGEO, qu'on appelle vulgairement DAC, ainsi qu'à la phase pilote. Une belle entourloupe donc pour contourner les questions qui fâchent tout en ne gelant pas le projet. Cela signifie que le projet pourrait être déclaré d'utilité publique et entrer en phase opérationnelle sans que l'ensemble des doutes ne soit levé. En tant qu'habitants et habitantes du territoire, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous craignons par ailleurs que le gouvernement tente de faire déclarer le projet CIGEO opération d'intérêt national. Donc OIN. Cette procédure retirerait aux élus locaux leurs compétences en matière d'urbanisme sur un périmètre donné afin de simplifier la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec les travaux rendus nécessaires par le projet. Derrière cet acronyme pourrait se cacher une opération qui permettrait à l'État de délivrer des autorisations de construire en lieu et place des acteurs locaux. Demander à la population locale de s'exprimer sur l'utilité publique d'un projet tout en le déclarant opération d'intérêt national serait une profonde arnaque. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? N'attendons rien de l'issue de l'enquête publique. N'est-elle pas juste une formalité pseudo-administrative supplémentaire? Le projet de Labo de Bure a déjà fait l'objet de 2 enquêtes publiques par le passé qui n'ont rien changé à l'avancée du projet. En revanche, profitons de cette période pour donner de la résonance à nos profondes inquiétudes et nous opposer plus franchement encore. Début 2021, diverses communes ont émis de nombreuses réserves ou des avis négatifs pour certaines sur l'étude d'impact produite par l'ANDRA. Peuvent-elles se contenter maintenant de non-réponses? Ensemble, collectifs, communes, habitants, habitantes, disons non à CIGEO. Il est temps plus que jamais de défendre notre territoire et empêcher la poursuite du projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et donc voilà, et donc faut savoir qu'il va y avoir 3 jours, comme ils le disent. Donc ça commence le mercredi 15 septembre à Montier-sur-Sault. Et puis voilà, il y aura aussi, après c'est mercredi, jeudi et vendredi. Je ne vous lirai pas tout le programme, mais vous pouvez retrouver un peu ces infos sur Bure, entre autres. Et puis, après il y a tout un tas de contacts comme ça que vous pouvez retrouver sur le site, si vous voulez plus d'infos là-dessus. En tout cas, ça commence la semaine prochaine. Et après, c'est encore à moi, je crois. Et oui, parce que, évidemment, c'est la rentrée. Qui dit rentrée, dit... on parle d'un petit incident nucléaire. Enfin, voilà, qui se passe dans une centrale. Alors, effectivement, on va parler de Belleville. Alors, Belleville n'est pas la seule dans ce cas-là, mais Belleville pète plus vite que son ombre. Alors, déjà, le budget pétait plus vite que son ombre. Mais là, Belleville aussi, c'est pas mal. Puisque en un mois, la centrale nucléaire rejette plus de gaz à effet de serre que le maximum autorisé à l'année. Donc sur le seul mois d'août 2021, à Belleville-sur-Loire, dans le centre-Val de Loire, EDF a laissé fuiter presque 150 kg de liquide de refroidissement, soit une fois et demie le maximum autorisé sur toute une année, qui est 100 kg. Une fois à l'air libre, ces liquides se transforment donc en gaz, en de puissants gaz à effet de serre, dont le pouvoir réchauffant équivaut à plusieurs milliers de kilos de CO2. EDF ne dit pas à combien s'élèvent les émissions au total pour 2021 pour cette centrale, encore moins le cumul actuel pour tout le parc nucléaire qui compte pas moins de 18 centrales en fonctionnement. Alors je parle des 18 centrales, c'est pas les réacteurs. Donc plusieurs en démantèlement. Et l'EPR de Flamanville, qui est encore en construction, mais qui, même s'il ne fonctionne pas vraiment, il est déjà lui aussi émetteur de gaz à effet de serre. Et donc ces fluides frigorigènes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fluides qui sont assez répandus dans les installations nucléaires. Ils servent pour la clim, notamment des personnes, mais aussi et surtout des équipements, puisque dans les zones nucléaires, il fait très chaud. Et donc, à titre d'exemple, les groupes électrogènes qui fonctionnent sur du diesel, puisque les centrales nucléaires ont besoin de moteurs diesel. Donc, ces moteurs diesel servent de source électrique de secours en cas de panne d'électricité. Et bien, ces fameux moteurs ont besoin d'être refroidis pour pouvoir fonctionner juste quelques heures. Et donc, ces liquides sont composés de molécules carbonées et plus souvent fluorées qui participent très grandement au réchauffement climatique. Lorsqu'ils sont au contact de l'air après son normal, ils se transforment en puissants gaz à effet de serre. Et leur effet de réchauffement global, notamment dans le temps, varie selon le gaz utilisé. Mais leur pouvoir réchauffant, à l'aune d'une vingtaine d'années, valent plusieurs milliers de fois celui du CO2. Et donc le CO2, c'est le fameux gaz qu'on nous bassine à longueur d'année comme référence au réchauffement et au gaz à effet de serre. Rien que pour l'année 2021. Alors que seulement 8 mois se sont écoulés, plusieurs centrales nucléaires d'EDF ont déjà dépassé ces 100 kg de fuite de fluide frigorigène. Donc Belleville, Chinon, Paluel et Flamanville à deux reprises. Sans compter que le site de Belleville a déclaré début 2021 avoir rejeté quasiment 3 fois le maximum autorisé en 2020. Quant à l'EPR de Flamanville, qui n'est pas encore en fonctionnement ni même autorisé, EDF a déclaré, avec 2 années de retard, avoir dépassé son quota de fuite de fluide frigorigène sur le site en 2019. La centrale du Puget, et je vous en parlais tout à l'heure, a elle aussi déclaré fin 2020 avoir aussi dépassé la limite annuelle autorisée. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est vrai que le nucléaire, il y a toujours un peu ce débat de le climat, le nucléaire va sauver le climat, et donc il nous bassine avec les gaz à effet de serre. Évidemment, c'est important, mais en fait, EDF se cache bien de dire qu'ils en rejettent aussi pas mal. Et donc, quand on voit leur pub absolument immonde, campagne de pub absolument immonde, ça me fait bien doucement rigoler. Voilà. Et oui, et puis à noter aussi que toutes ces déclarations de gaz, de fuite de gaz, avant, c'était pas légalisé. C'était un peu, c'était mis sous le tapis. Maintenant, ils sont obligés un peu d'être un peu plus vigilants là-dessus. Voilà.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF. the border.
Et oui, dans une ambiance plus que nauséabonde, donnant allègrement la voix aux idées d'extrême droite, on l'a vu, on est quand même contente de savoir que hier, jeudi 9 septembre, à 14h, la cour d'appel de Grenoble a rendu sa décision dans le cadre du procès des 7 de Briançon. La cour a infirmé la décision de première instance condamnant ces 7 personnes solidaires pour des faits d'aide à l'entrée et à la circulation de personnes en situation irrégulière, après avoir écarté la circonstance aggravante de bande organisée. Ils ont été condamnés en première instance à des peines allant jusqu'à 4 mois de prison ferme et 8 mois avec sursis pour avoir participé le 22 avril 2018 à une manifestation antifasciste. Donc on est quand même très content de cette relaxe. On va vous relire un petit bout du communiqué qu'ils avaient publié en mai pour expliquer à quel point c'était absurde tout ce procès-là. Cette manifestation spontanée visait à dénoncer l'action du groupe fascisant Génération Identitaire, présent la veille au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes, et la militarisation de la frontière qui met des vies en danger. Depuis 5 ans, l'État mène une chasse à celles et ceux qu'il considère comme indésirables et procède à des refoulements illégaux quotidiens en contrevenant à ses propres lois. Depuis 5 ans, des milliers de solidaires, des dizaines de soignants et soignantes se relayent au nom du principe de fraternité pour porter assistance à des exilés déterminés à venir chez nous un peu de paix. Les violences policières sont avérées, la mise en danger des exilés qui, une fois sur le territoire français, tentent d'échapper à leur interpellation et les courses-poursuites meurtrières aussi. Il ne s'agit plus de baveurs policières isolées, mais d'une répétition d'actes systématiques de violence et de graves atteintes aux droits fondamentaux qui témoignent d'un racisme systémique à l'œuvre aux frontières françaises et européennes. Donc on est très content de cette relaxe-là. En même temps, on a un peu envie de rappeler les politiques systémiques et racistes du gouvernement, alors qu'actuellement, ils tentent de se présenter comme accueillants vis-à-vis des personnes afghanes et tout comme l'Europe, comme des personnes qui sauraient gérer les questions d'immigration. On peut rappeler que malgré... que le gouvernement tente de se présenter comme accueillant et que malgré la violence extrême du régime taliban et l'idéologie réactionnaire qu'il met en place, malgré l'attaque terroriste de l'aéroport de Kaboul qui tua plus d'une centaine de personnes le 26 août, l'État français, considérant que l'évacuation de 2800 personnes était suffisante, a arrêté les rapatriements le 27 août. Le lundi 30 août, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc l'OFI, a ouvert un guichet unique spécial auprès de la préfecture de police de Paris pour enregistrer les demandes d'asile de 2500 Afghans et Afghanes qui ont été évacués par la France depuis la prise de pouvoir par les talibans le 15 août. Mais au-delà de la communication autour de ça, il faut quand même rappeler que pour les personnes afghanes qui sont entrées en France par leurs propres moyens et souhaitent y demander l'asile, il n'y a aucun dispositif spécifique qui a été annoncé. Donc en fait, on fait un énorme ramdam autour d'un dispositif auprès de 2500 personnes, sans penser que la politique de demande d'asile actuellement en France est plus que scandaleuse, qu'on laisse les personnes toutes seules et que pour la majorité des Afghans et des Afghanes qui étaient déjà sur le territoire français ou qui y sont arrivés pas par le système de la France et de l'aéroport, il n'y a aucun dispositif qui est pour l'instant prévu. C'est aussi l'occasion de vous rappeler un rendez-vous demain, samedi 11 septembre à 15h, place de la Comédie, en solidarité et en soutien aux Afghans et aux Afghanes et aux réfugiés. Alors je vais vous dire un peu ce qu'ils réclament, ces personnes que vous pourrez rencontrer évidemment demain à 15h, place de la Comédie. Ils demandent, comme le rassemblement qui a eu lieu le 27 août, un accueil inconditionnel des personnes demandant l'asile en France et en Europe, que les personnes qui souhaitent fuir l'Afghanistan puissent le faire dans le pays de leur choix, dans des conditions d'accueil dignes et humaines, un accès au logement, à la santé, à la formation, que toutes les personnes afghanes sur le territoire français et européen soient immédiatement régularisées, quelle que soit leur situation administrative, que cessent immédiatement les reconduites à la frontière, que les ONG et les militants et militantes en Afghanistan soient soutenus, pas par des beaux discours, mais par des moyens concrets, d'une diplomatie au service des droits humains et non des intérêts économiques. Et enfin, ils demandent une réforme radicale des conditions d'accueil et d'asile en France, car les frontières tuent chaque jour. Et voilà, on avait envie de vous rappeler ça aussi dans ce contexte.
Et on peut aussi dire quand même, parce qu'on est à Lyon, que l'hypocrisie n'est pas seulement celle de l'État, mais aussi celle des grandes villes. On a vu un certain nombre de maires se faire des gorges chaudes de transformer leur ville en ville refuge, en ville accueillante, etc. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, n'a évidemment pas échappé à cette tentative de se dresser en chantre de l'intégration et de l'accueil des demandeurs d'asile, des exilés, etc. Bon, quand on connaît un tout petit peu la réalité de l'accueil des exilés sur le territoire lyonnais, notamment toutes les problématiques qui se posent en termes d'hébergement, qu'il s'agisse notamment de personnes mineures, mais pas seulement, ça fait quand même un peu rire jaune.
Mmh.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et maintenant à l'international, on a envie de vous parler, enfin aussi du national en fait finalement, on a envie de vous parler d'où est-ce qu'on en est finalement sur les législations autour de la contraception mais aussi autour de l'avortement, qui sont, je répète, deux choses qui sont différentes. Les législations autour de l'avortement n'ont pas à être forcément dépendantes des législations autour de la contraception. Mais on a envie de vous en parler parce que quand même, pareil, il y a un truc qu'on a envie de penser que c'est une bonne nouvelle, même si c'est pas une nouvelle suffisante. C'est que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé hier aussi, jeudi, la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans. Alors c'est une décision qui a été bruyamment saluée par la majorité, qui intervient quand même après des débats houleux sur l'assouplissement de l'accès à l'avortement, mais une jolie manière de redorer le blason du ministère de la Santé. Au-delà de ça, on est quand même contente. On est contente parce qu'avant, cette gratuité était jusque-là réservée aux mineurs. Alors, qu'est-ce qu'a dit exactement le ministre ? Le ministre, il nous a dit « J'ai fait plusieurs constats. En lien avec les autorités scientifiques, il y a un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes. Et le premier motif, c'est un renoncement pour des raisons financières. C'est insupportable. » Eh bien, pour une fois, on a envie d'être d'accord avec lui. Effectivement, c'est insupportable. Il a un peu détaillé. Il nous a dit après « Il y aurait une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu'à 25 ans. » Le ministre a ensuite précisé que toutes les formes de contraception déjà remboursées par la Sécu, ça veut dire certaines pilules et implants, stérilets, diaphragmes, seront concernées. Cet élargissement de la gratuité représente alors quand même un effort de 21 millions d'euros, ça ils aiment bien préciser ça, et ça va arriver à partir du 1er janvier 2022. On peut quand même se poser un peu des petites questions, par exemple pourquoi la barre a été mise à 25 ans. Et alors là on aime bien la réponse du ministre quand même. Le ministre nous a dit « C'est un âge qui correspond, en termes de vie économique, sociale et de revenus, à davantage d'autonomie. C'est aussi l'âge où l'on va quitter définitivement la complémentaire de santé et de son foyer. » Alors certes, légalement, on quitte la complémentaire de santé de son foyer. C'est pas quand on fête le jour de son anniversaire de ses 25 ans qu'on peut forcément se payer sa contraception. Et c'est de nouveau la question économique qui va jouer pour beaucoup de personnes. C'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une première étape. C'est une première étape parce que tout ne sera pas résolu par cette mesure. Par exemple, le planning espérait obtenir une limite d'âge de 30 ans, parce qu'aujourd'hui, la précarité, elle ne fait qu'augmenter. Mais elle espérait aussi une meilleure formation des médecins à l'accès à la contraception. La contraception masculine, aujourd'hui très marginale, n'est pas non plus évoquée, et les pilules non remboursées par l'assurance maladie ne seront pas concernées. Les militants et les militantes du droit à la contraception s'inquiètent aussi souvent du manque d'information et de prévention, notamment auprès des plus jeunes. La loi sur l'éducation à la sexualité est peu ou mal appliquée. On a quand même envie de dire qu'en même temps, il y a la proposition d'une loi facilitant l'accès à l'avortement, notamment par l'allongement des délais et par le recours aux sages-femmes. C'est des choses qui ont été beaucoup portées par le planning familial, notamment au cours du premier et du deuxième confinement. L'importance d'avoir le temps d'informer les personnes, que les personnes se rendent dans des centres d'accueil, soient au courant de leurs droits. Et donc pour ça, un besoin d'allongement des délais pour pouvoir avorter. Alors là, il y a une loi qui a été proposée, qui a été adoptée par l'Assemblée contre l'avis du gouvernement, qui est actuellement débattue au Sénat. Le texte attend d'être reprogrammé par les députés pour avoir une chance d'être voté avant la fin du quinquennat. De ça, le gouvernement ne parle pas et ne semble absolument pas pressé de reproposer cette loi pour qu'elle soit votée et définitivement adoptée. On avait aussi envie de vous parler autour de cette loi de quel type de contraception on parle. Quand on regarde un peu plus près, on parle de contraception hormonale. Il faut savoir que de plus en plus de femmes souhaitent élargir leur choix de contraception. Donc les contraceptions hormonales, ça va comprendre certaines pilules contraceptives de première et deuxième génération, l'implant contraceptif, le DIU, le stérilet hormonal ou en cuivre, ainsi que le diaphragme. Ne sont donc pas remboursées par l'assurance maladie les pilules de troisième et quatrième génération, le préservatif féminin, l'anneau vaginal, le patch, les spermicides et la contraception définitive, ça veut dire la ligature des trompes. On retrouve quand même un schéma, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas très conservateur, qui est que pour faire de la contraception, on commence par la pilule quand on est jeune, après quand on a un seul partenaire, et ben on va mettre le préservatif, et puis après, quand on aura des enfants ou pas, on pourra voir pour le dispositif intra-utérin. C'est quand même une vision qui continue à contraindre le corps des femmes, qui ne donne pas réellement des libertés de choix. Et ça, ça va aussi le fait qu'il y a encore énormément de violences gynécologiques, des médecins qui refusent de donner des réels choix aux personnes, qui refusent de les accompagner. Et pour ça, on continue à vous conseiller le site Gynenco, par exemple, sur lequel vous pourrez trouver une liste de médecins, praticiens aussi, plus largement, de sages-femmes et d'autres soignants, avec une approche féministe qui pourront vous aider dans votre choix de contraception.
Et on peut préciser aussi, et ça renforce d'ailleurs le décalage, que même si la contraception masculine n'est pas abordée dans cette loi-là, le fait que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on ait un remboursement possible des préservatifs, ce qui à nouveau en fait reproduisait d'ailleurs le même schéma, mais en tout cas ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, donc servez-vous-en hein, si vous le pouvez, il suffit d'une prescription de votre médecin. Ça s'adresse, je crois, essentiellement, avant tout, aux hommes, mais surtout, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, à nouveau, ça repose cette question, notamment en termes d'égalité, qui est un peu curieuse.
Et ça, c'est pas mal, parce que j'avais envie de compléter qu'en proposant la gratuité aux seules femmes, le ministère de la Santé contribue aussi à véhiculer l'idée de la contraception ne serait qu'une affaire de femmes. Aussi, d'ailleurs, j'ai envie de préciser aussi qu'une affaire de sexe hétérosexuel, alors qu'on se protège de plein de choses et on ne se protège pas forcément du tout que d'une grossesse. Et que du coup, il y a peu d'informations ni de propositions d'un choix de contraception plus large, quel que soit votre type de sexualité. On a aussi envie qu'on aurait des campagnes autour du refus du port du préservatif sur la question de la contraception de manière plus large. Et donc, plus largement, de repenser le rapport à la sexualité et de penser qu'on parle toujours d'un rapport qui est un rapport dans des rapports hétéronormés, en tout cas souvent patriarcal, et qu'on a besoin de formation et d'écoute. Et par ailleurs, comme on disait que tout ne vient pas de l'État et qu'on a déjà parlé de Laurent Wauquiez, on a envie de reparler de Laurent Wauquiez maintenant. Donc on a aussi envie de dire qu'on regrette beaucoup ses positions à ce sujet. Pourquoi avoir supprimé la semaine de la lutte contre les discriminations et la quinzaine de l'égalité entre les femmes et les hommes? Pourquoi avoir baissé, voire supprimé les subventions d'associations plutôt contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations en général? Par exemple, sous Jean-Jacques Kerran, les subventions du planning oscillaient entre 140 et 150 000 euros chaque année. Laurent Wauquiez a octroyé à son arrivée 125 000 euros par an. Le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Isère, quant à lui, a perdu 90% de sa subvention lors de l'arrivée de Laurent Wauquiez à la présidence. Résultat, mise en liquidation judiciaire. Côté Ardèche et Drôme, une dizaine de postes ont été supprimés, conséquence directe de la baisse de la subvention régionale. Donc on a envie aujourd'hui de saluer le fait qu'il y ait davantage d'accès à des contraceptifs. On a aussi envie de rajouter que ce n'est pas assez, que ce sont aussi des centres d'accueil et d'information dont on a besoin, et que la lutte pour le choix et la liberté des femmes n'est jamais acquise. Donc comme je vous l'ai dit, la question de la contraception, ce n'est pas la même que celle de l'IVG, mais sont toutes deux des questions autour des législations, autour des droits des femmes à disposer de leur corps. Donc on avait envie de revenir un peu sur ce qui se passe actuellement, rapidement, et aux États-Unis et au Mexique. Aux États-Unis, pour dire que c'est assez dramatique qu'il y ait une loi ultra restrictive sur l'avortement qui est rentrée en vigueur au Texas le 1er septembre. Et ça, pour l'instant, en l'absence d'intervention de la Cour suprême, même si ça peut peut-être encore changer. Les cliniques pratiquant l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse pourront être attaquées en justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, le temps qu'il faut pour se rendre compte qu'on est enceinte, aller voir quelqu'un 6 semaines de grossesse, c'est rien. Il s'agit d'une des législations les plus restrictives aux États-Unis, interdisant les avortements dès qu'une échographie peut détecter ce que les législateurs texans appellent un battement du cœur du fœtus. D'autres lois similaires, surnommées Earthbeat Bills, ont été votées dans divers États du pays pour interdire l'avortement dès 6 semaines de grossesse, un moment où beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Cependant, des juges en ont jusqu'ici empêché l'application, ça du coup dans les autres États. Ce qui change là avec le texte qui est proposé au Texas, c'est que c'est une loi qui confère aux citoyens et non aux autorités publiques la capacité d'attaquer en justice les institutions pratiquant l'avortement et même toute personne aidant une femme à se faire avorter dans un cas du coup qui serait devenu illégal. Ce qui rend plus difficile pour les défenseurs de l'avortement d'aller en justice pour prévenir l'application de la loi. Alors actuellement, le gouvernement fédéral des États-Unis cherche à bloquer cette loi qui interdit, donc je vous ai dit, l'avortement au bout de 6 semaines et permet aux citoyens de poursuivre toute personne ou institution aidant une femme à se faire avorter. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé et je trouve que c'est dramatique de ce que ça veut dire du poids de certains lobbies ou de certaines pensées sur comment on peut agir sur la législation pour restreindre des choix qui restent avant tout des choix qui sont fondamentaux de droit individuel. Pour finir quand même sur une bonne nouvelle, comme ça a déjà été relayé dans le Canu Info du mercredi, la Cour suprême au Mexique ouvre la voie à la dépénalisation de l'avortement. Alors c'est ouvre la voie à la dépénalisation, hein. On y va doucement. Mais quand même, la plus haute juridiction du pays a amendé le code pénal de l'état de Coahuila, qui prévoyait des peines de prison en cas d'IVG. Une décision qui établit donc une jurisprudence. Plus jamais une femme ne devra être poursuivie pour avoir avorté, a assuré mardi 7 septembre Luis María Aguilar, juge de la Cour suprême du Mexique. La limite de gestation autorisée pour avorter devrait être précisée lors de la publication de la sentence, dont la date n'a pas été encore fixée. Mais les juges ont évoqué la période de 12 semaines de grossesse pendant lesquelles l'IVG est permise dans 4 des 32 États fédérés qui ont légalisé l'avortement. Il faut se rendre compte que du coup, au Mexique, c'est par État, donc il n'y a pas une loi nationale, il y a des États. C'est comme des sortes de régions, si vous voulez, ou départements qui ont légalisé l'avortement, 4 sur 32. Donc tous les autres ne l'ont pas fait. Donc certains États l'autorisent aussi lorsque la santé de la femme enceinte est en jeu. L'avortement non médicalisé est quand même la quatrième cause de décès maternels au Mexique. Et bien que l'IVG ne soit pas encore autorisé dans tous ces États, l'arrêt de la Cour suprême constitue aussi un outil permettant aux femmes emprisonnées pour avoir avorté, et ça dans l'intégralité des États du Mexique, de recouvrer leur liberté. Et ça, quand même, ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Dans un État, on se rend compte, et dans un monde, on se rend compte aussi, qui reste un monde éminemment patriarcal, et dans lequel toutes les luttes et toutes les victoires ne sont jamais acquises.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second, et oui, en russe, et mon tout, est un outil permettant d'associer des actions et des moments, et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et voilà, de retour dans les studios pour vous faire un petit agenda. Parce que c'est la rentrée et qu'on a des occasions de se retrouver. Alors déjà, j'imagine que vous êtes assez ravis d'entendre les voix du Canu Info de vendredi. Mais votre week-end est loin d'être fini. Notamment, on avait envie de vous parler du week-end de commémoration pour Idir, qui est mort à Corba le 9 septembre 2020. C'est un week-end de commémoration qui se tiendra à Lyon et à Brignais. Sur 3 jours, avec différentes activités, vous pourrez aller voir un documentaire, participer à la discussion, des repas, des barbecues et même un tournoi de foot. Pour vous redonner le contexte, il y a un an, Idir Médérès perdait la vie au mitard de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, dans des conditions suspectes. Pour commémorer son décès et continuer la lutte contre les violences pénitentiaires, vous êtes donc tous et tous invités à retrouver du coup, le collectif lors de plusieurs événements. Maintenant, parce que ça a commencé à 18h30, alors je pense que c'est un peu tard, mais vous pouvez toujours passer après pour aller dire bonjour. Il y a eu la projection à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière. L'espace communal de la Guillotière, c'est 27 rue Salmon-Reynard. La projection du documentaire En dehors de Grégory Lassalle. C'est suivi d'une discussion avec le réalisateur. Du coup, j'imagine que vous pouvez toujours aller maintenant courir rencontrer le réalisateur. Demain midi, il y a un repas convivial qui est proposé avec de la musique. Il ne faut pas hésiter à écrire à fracas@rise9.net pour savoir où c'est. Et dimanche, c'est le tournoi de foot et le barbecue à Brignais. C'est à partir de 14h, 14 avenue du Stade à Brignais. Donc vous pouvez aller sur Rebellion pour retrouver toutes ces informations et notamment les adresses si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Tout ça, c'est organisé par l'association Idir Espoir et Solidarité. Si vous restez sur Lyon samedi demain, vous pouvez aussi vous rendre à l'Amicale où Textuel, un groupe de lecture féministe non mixte qui se réunit depuis plusieurs années, propose pour la première fois un événement public à l'occasion de la venue de Françoise Vergès. Et oui, vous aurez l'immense chance peut-être si vous vous rendez à l'Amicale demain à 16h de rencontrer Françoise Vergès, qui est une féministe antiraciste, autrice de plusieurs ouvrages aux éditions La Fabrique et qui viendra discuter de son dernier livre, Une théorie féministe de la violence, qui est paru il y a un an et dont les thèses résonnent aujourd'hui très fortement avec l'actualité. Je vous en ai déjà parlé, mais j'imagine que vous l'avez noté. Juste avant d'aller rencontrer Françoise Vergès, vous pouvez bien sûr aller place de la Comédie au rassemblement de solidarité en soutien aux Afghans et aux Afghanes et aux réfugiés. Enfin, samedi soir, si vous avez toujours de l'énergie, vous pouvez aller à la projection et discussion autour de la présentation du livre « Oui, Sam Vérité » par Farid El Yamni. Donc, c'est en soutien au collectif Justice et Vérité. Le collectif d'Araraga vous invite à l'atelier des canulars, samedi, donc demain à 18h, pour une projection et une discussion autour du livre « Oui, Sam Vérité » par Farid El Yamni. Il y aura aussi la projection du film « À nos corps défendants », ainsi que la présentation du livre « Oui, Sam Vérité ». Et tout ça sera suivi d'une discussion. J'ai l'impression qu'ils vont aussi vous servir à manger. Ça a l'air hyper sympa, l'atelier des canulars. C'est 91 rue Montesquieu. Eh bien, je crois que c'est fini pour cet agenda de rentrée avant, évidemment, la réécoute des Canu Info dès le lundi soir. Je cherche avec beaucoup de motivation.
Le jingle, il est perdu.
Ah non.
Mais alors, ce soir, qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Eh bien, écoute, qu'est-ce que veut dire ACAB ce soir ? Ça veut dire avec ma contraception, on va s'aimer à Bure. Et oui, c'est un Canu Info à la fois antinucléaire et érotique.
Et donc. Dans quelques dizaines de minutes, j'exagère, dans quelques minutes, vous aurez le droit d'écouter, vous pourrez écouter Noise Pollution, votre émission de quel genre on invente là ce
soir. Je crois que c'est du punk.
Pardon, je suis très loin du micro en plus. C'est une émission de punk, ouais, je pense aussi. Ouais. Donc voilà, vous pourrez écouter un peu de punk avec Noise Pollution.
Et ben nous, en tout cas, on a été ravis de vous retrouver et à la semaine prochaine.
Ciao, bonne soirée.
Ciao.
Bye.